Pourquoi parler aujourd'hui du Bauhaus et de la modernité architecturale? Alors d'abord, parce que c'est un moment où ont été façonnés les formes, les objets qui nous sont familiers aujourd'hui, qui imprègnent notre cadre de vie. Ensuite, parce que même si le Bauhaus a gagné récemment en notoriété, il reste relativement méconnu. Parce que cette question du Bauhaus et de la modernité architecturale revient sur le devant de la scène politique. Ça fait longtemps en Angleterre qu'on sait que le prince Charles s'oppose à l'architecture contemporaine et a refusé l'édification d'un certain nombre de bâtiments à Londres et au-delà de ça, a lui-même suscité sur un terrain qui lui appartient la création d'un village à l'ancienne. Cette question revient sur le devant de la scène politique. Elle est discréditée par des courant conservateur en Angleterre, aux États-Unis. Ça fait longtemps que les conservateurs américains mènent une forme de croisade contre l'architecture non classique qu'elles jugent non conforme à l'identité nationale et aux valeurs traditionnelles. En conséquence, l'un des décrets que le président nouvellement élu Donald Trump a pris dès son élection, dès janvier 2025, a été d'imposer l'architecture néoclassique pour les bâtiments fédéraux, qui dépendent donc de la juridiction de l'État fédéral. Et plus récemment, c'est en Allemagne que le parti d'extrême droite, l'AFD, l'Alternative für Deutschland, fait et cause contre le Bauhaus, en particulier au moment de la célébration en 2025 de la création d'un édifice dont il sera très largement question tout à l'heure, qui s'en est pris au Bauhaus, qui a été le fer de lance de la modernité en Allemagne. L'AFD, l'Alternative für Deutschland, ce parti d'extrême droite, accuse le Bauhaus d'avoir, et je cite, inspiré des constructions épurées, le cube blanc en béton, à angle droit, au toit plat, aux larges fenêtres vitrées, sans ornement, sans volets sur les façades. Ce parti d'extrême droite incrimine la laideur abyssale de ces bâtiments et leur reproche d'être coupés des traditions ancestrales. Dans la vision des choses de ces partis, le toit plat est laid et le toit en pente est beau. Je vais donc revenir sur cette institution qui a eu une importance déterminante sur l'invention du design et de l'architecture moderne et au-delà pour l'histoire des arts. Le Bauhaus, qui est l'élément phare de la modernité en Allemagne, de la modernité de l'Allemagne des années 20 et au-delà de l'avant-garde européenne. De fait, son importance va bien au-delà de l'Allemagne, comme en témoigne le fait qu'il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au plan international, il y a eu un certain nombre de publications sur le Bauhaus depuis sa fermeture en 1933. Depuis quelques années, le Bauhaus a gagné en notoriété. Vous avez peut-être vu l'exposition qui a eu lieu à Paris en 2016-2017 au Musée des Arts Décoratifs. En Allemagne, le centenaire du Bauhaus en 2019 a été célébré en grande pompe et a donné lieu à l'ouverture d'un certain nombre de musées célébrant le Bauhaus. Toujours pour le centenaire de 2019, une mini-série a évoqué les tout débuts du Bauhaus en montrant le dynamisme, la juvénilité de quelque chose qui paraît parfois un peu fossilisé, tellement il est canonique dans l'histoire des arts plastiques à l'échelle presque mondiale. Et puis, dernier épisode à Berlin, qui est une destination désormais très prisée par les jeunes, une extension est prévue pour le Bauhaus Archive, qui est probablement le lieu le plus célèbre où les archives du Bauhaus ont été déposées. Un certain nombre d'aléas fait que le musée ouvrira en 2017, en 2027 si tout va bien. Donc, à un de vos prochains voyages à Berlin, vous pourrez aller voir s'il a enfin pu être terminé. D'une façon générale, l'importance de la situation artistique allemande est primordiale pour la modernité du XXe siècle et pas seulement architecturale. À vrai dire, c'est dès le début du XXe siècle que l'Allemagne est au centre de la réforme architecturale parce qu'elle est sans doute moins imprégnée, moins corsetée par la tradition beaux-arts que, par exemple, l'architecture en France, qui a beaucoup de mal à s'éloigner à l'époque des canons académiques. Alors, il faut rappeler que l'Allemagne connaît, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une industrialisation foudroyante, une urbanisation sans égale, inimaginable en France. À la veille de la Première Guerre mondiale, donc avant 1914, 50 villes comptent plus de 100 000 habitants en France, la France étant par comparaison un pays très, très largement rural. Et ces intenses transformations permettent aux artistes de jouer un rôle important, de s'exprimer dans les revues, mais aussi et dans les écoles d'art, mais aussi d'infiltrer les administrations municipales et de mener à bien quelque chose qui va révolutionner les styles dominants, les façons de construire dominants en Europe, qui sont l'historicisme et l'éclectisme. Alors, ce renouveau architectural qui s'amorce avant la Première Guerre mondiale s'oppose à la surcharge de l'architecture. Et vous voyez là l'hôtel de ville de Munich, dont on aurait pu penser qu'il remonte à loin. De fait, l'inspiration est néo-gothique, mais qui en fait est construit dans le dernier tiers du XIXe siècle. Le Reichstag, qui lui est une inspiration plus strictement néoclassique, avec en noir et blanc le Reichstag d'origine, qui a été naturellement très abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai mis la vision que vous en avez peut-être si vous connaissez Berlin. Et puis, néo-gothique, néoclassicisme, ça se trouve dans d'autres pays européens. Ce qui est peut-être plus typiquement germanique, c'est le néo-roman rhénan, qui est inspiré de l'architecture allemande de la fin du Moyen Âge, qui est très répandue dans la fin du XIXe siècle, dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle. Et vous voyez là la gare de Metz, Metz étant bien sûr à l'époque annexée par l'Empire qui a gagné la guerre de 1870. Alors, vers 1900, un certain nombre d'architectes se détachent de ce surplus, de cette surcharge ornementale et procèdent à un certain nombre d'expérimentations pour simplifier le décor ou pour utiliser des matériaux modernes, comme le béton par exemple. Cela dit, ces différentes initiatives, à la veille de la Première Guerre mondiale, n'ont pas produit de tendance ou de style vraiment identifiable. Ils sont tous marqués par la recherche d'une nouvelle simplicité. Il faut aussi noter que l'Allemagne, même si c'est une puissance industrielle, et c'est difficile à imaginer aujourd'hui, est considérée, ces productions industrielles sont considérées comme de mauvaise qualité. On parle de la Kaamelott allemande, ce qui est très difficile à imaginer aujourd'hui. Et donc, un mouvement se fait jour, soutenu par le gouvernement, pour améliorer la culture industrielle. Et les architectes qui sont engagés dans la recherche d'une nouvelle architecture participent aussi d'un mouvement qui va permettre aux objets allemands de gagner en qualité. C'est dans ce creuset que se forme la nouvelle génération des architectes allemands, ceux qui vont animer l'avant-garde de l'entre-deux-guerres des années 20. Alors, je me borne à mentionner une seule de ces réalisations, la plus connue, qui est une usine construite par Walter Gropius, dont il sera abondamment question par la suite. Et cette usine propose le premier mur-rideau de l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire que cette façade en verre n'a aucune fonction porteuse, elle est posée devant la façade, et là où, à la rigueur, on utilisait le béton, le métal, le verre pour des raisons pratiques, Gropius essaye de montrer que ces matériaux peuvent avoir aussi une qualité esthétique. Venons-en donc au Bauhaus, qui est souvent présenté comme un mouvement ou comme un style, qui est avant tout une école d'art plastique, un lieu d'enseignement qui a été fondateur pour l'architecture occidentale du XXe siècle. Alors, pas seulement une école d'architecture, parce que, à l'inverse de l'enseignement traditionnel, le Bauhaus cherche le croisement des disciplines. Des disciplines et des pratiques artisanales. Ces 14 années d'existence vont profondément marquer l'art et bien au-delà. Ces 14 années d'existence vont coexister exactement avec la République de Weimar, puisque ni le Bauhaus ni la République de Weimar ne survivront à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est donc un courant artistique de la modernité dans les domaines de l'architecture, des arts plastiques, mais également de la photographie, du costume et même du théâtre et de la danse. Le Bauhaus voit le jour en 1919 dans la ville de Weimar. Weimar est une petite ville de province assez tranquille, 40 000 habitants. C'est la capitale du grand-duché de Saxe-Weimar et donc à ce titre, le grand-duc, qui était une personnalité assez éclairée, a accueilli beaucoup d'artistes, dont Goethe en particulier, Goethe à Weimar, très connu, dont Liszt, Nietzsche y est mort. C'est une petite ville, on va le redire, relativement à l'abri des bouleversements que connaît l'Allemagne de l'époque. Un mot donc sur les circonstances historiques de la création du Bauhaus. En 1918, la situation allemande est catastrophique. Des grèves demandent la fin de la guerre. Ces grèves entraînent une révolution, laquelle pousse l'empereur Guillaume II à démissionner. Cette période est extrêmement troublée. La République est proclamée et c'est à Weimar, donc relativement plus tranquille, que se réunissent les constitutionnalistes, ceux qui, pour la première fois, sont chargés de rédiger une constitution en Allemagne. Et c'est dans cette ville que Gropius, dont il vient d'être question, celui qui a construit l'usine que je vous ai montré tout à l'heure, est sollicité pour créer une école d'art qui donc réponde à ce besoin d'innovation industrielle et formelle. Dans cette République de Weimar, qui va coïncider avec une période extraordinairement brillante pour l'art et la culture, Gropius donc se voit investi de la mission de créer une école d'art. Gropius a été formé comme architecte, il a ouvert son agence à Berlin, il a, comme beaucoup d'hommes de cette génération, été mobilisé, gravement blessé pendant la guerre. Il est sollicité pour prendre la succession d'un architecte belge qui avait créé une école d'art appliqué et qui, se trouvant dans le camp ennemi, avait dû regagner ses foyers. Et Gropius obtient de fusionner deux écoles, l'école des arts appliqués et l'Académie des beaux-arts, en utilisant ce bâtiment préexistant. Les débuts du Bauhaus sont marqués par un courant qu'on appelle l'expressionnisme. Dans l'Allemagne absolument traumatisée, où les ravages de la guerre ont porté un coup à la croyance dans le progrès, dans la technologie, dans cette industrialisation, se fait jour une utopie pour revenir à quelque chose de totalement différent, de proche de la nature, de proche de quelque chose d'organique, où l'on recherche des mécanismes de création qui ne soient plus ceux de l'industrie, mais qui soient accordés à une vision cosmique des choses, qui soient comme la formation de la nature dans sa version la plus cristalline et qui permettent de réconcilier la société. Alors évidemment, il s'agit avant tout d'une architecture de papier, parce que dans cette Allemagne traumatisée avec une crise économique et monétaire, le nombre de constructions est très limité. Ce courant expressionniste est organisé en réseau, dont Gropius et bien d'autres font partie. Et dans ce premier moment du Bauhaus, où toutes sortes de courants mystiques, le zoroastrisme, nouvelle version, la philosophie de Rudolf Steiner, entraînent des pratiques assez mystiques, une commande va être passée au Bauhaus par un personnage tout à fait intéressant, d'une maison qui va un peu incarner ce Bauhaus première manière, avec une maison en bois, parce que le commanditaire, qui s'appelait Sommerfeld, peu importe, avait réussi à récupérer un bateau, et donc le matériau dont il disposait était du bois. Et les ateliers du Bauhaus ont créé, gravé et collectivement produit cette maison, dont vous voyez, dont il n'existe plus que des images noir et blanc, étant donné qu'elle a été détruite depuis, avec déjà des meubles de Marcel Breuer, qui deviendra un des designers de meubles les plus talentueux et, je vais dire successful, pardon, mais du XXe siècle. Donc les objectifs au départ de Gropius sont triples, ils sont très clairement exprimés dans le programme initial du Bauhaus. Le premier objectif, c'est de faire coopérer les artisans et les artistes dans ce qui est le but ultime pour Gropius de la création plastique, c'est-à-dire l'architecture. Le deuxième objectif de Gropius, c'est d'abolir la hiérarchie entre artisans et artistes et de les mettre au même plan, comme l'étaient les bâtisseurs de cathédrales, qui est un modèle un peu fantasmatique et que l'on voit sur l'image, sur la gravure qui a accompagné le programme du Bauhaus. Et le troisième objectif est assez rapidement de se rapprocher de l'industrie pour obtenir une forme d'indépendance financière. Les méthodes du Bauhaus se fondent sur l'idée qu'on ne peut pas apprendre l'art, qu'il faut expérimenter et qu'il faut développer sa créativité. À l'inverse, on peut enseigner les métiers manuels. Et donc, l'idée est de fonctionner un peu comme les guildes du Moyen Âge, avec les maîtres, les compagnons, les apprentis, dans une forme d'apprentissage et de production collective. Et quand Gropius, parce que les deux écoles qu'il réunit à Weimar ne s'appellent pas du tout Bauhaus, elles ont un nom que je vais vous épargner, mais des noms assez longs et assez compliqués. Le terme de Bauhaus est comme un éclair de génie. Bauhaus est en fait l'inverse d'un terme allemand. Il crée ce mot, hein, le mot n'existe pas. Évidemment, maintenant, il y a une entreprise de produits de bricolage qui s'appelle Bauhaus, mais à l'époque, c'est une invention pure. C'est l'inverse du terme de Hausbau, construction de la maison. Et donc, Bauhaus, c'est la maison de la construction, sur l'idée de la Baugilde, de la Bauhütte, qui était la loge médiévale de constitution, de fabrication, d'édification de la cathédrale. Et ces connotations de la part de Gropius étaient totalement conscientes et revendiquées. Alors la terrible crise économique tout d'un coup connaît une embellie avec la stabilisation du marc en 1923. Et là s'ouvre une période beaucoup plus propice à la construction, mais beaucoup plus propice aussi au fait de déposer des brevets industriels. L'Allemagne connaît Non qu'elle soit jamais très calme sur le plan politique, mais sur le plan des conditions économiques, elle connaît un tout autre contexte. Ce dont témoigne le changement d'emblème du Bauhaus. Le premier emblème, en fait, c'est un des étudiants du Bauhaus qui avait gagné le concours et qui avait créé un petit bonhomme expressionniste en reprenant des symboles un peu germaniques, un peu asiatiques. Cet emblème du Bauhaus, première mouture, en fait, cède la place à l'image que vous voyez à droite de l'image, de la diapo, qui, au contraire, est quelque chose de totalement stylisé, fait de lignes droites, à mi-chemin entre la machine et le plan d'architecture, dans un cercle qui adoucit, et le glissement d'un logo, comme on dirait aujourd'hui, à l'autre est très parlant sur la transformation qui s'opère au Bauhaus en 1923, donc je le répète, au moment de la stabilisation monétaire, et où Gropius prononce une conférence restée célèbre, Art et industrie, une nouvelle unité. C'est le moment où les autorités de Weimar, qui financent le Bauhaus, demandent à l'institution de produire une exposition, de montrer les progrès qu'ils ont faits. Et vous voyez les affiches de cette exposition qui connaît un très grand succès à Weimar, qui attire 15 000 visiteurs et dont le clou est une maison qui diffère tout à fait de la maison Sommerfeld. C'est une maison qui s'appelle la House am Horn et qui est une bâtisse cubique, carrée, avec au milieu une salle de séjour surélevée qui dépasse, vitrée sur le côté, et une série de pièces tout autour, très fonctionnelles. Avec par exemple une chambre d'enfant qui est marquée par le tableau noir qui peut servir pour faire les devoirs, et une cuisine qui est conçue comme un laboratoire. 1923, c'est également le moment où les écrits de Henry Ford sont traduits en Allemagne, ont un retentissement considérable, et l'Allemagne qui retrouve un début de prospérité est fascinée par est-ce que Ford, est-ce que Taylor invente comme efficacité industrielle. Donc cette idée de la maison laboratoire, alors à la différence de la maison Sommerfeld qui était pour un commanditaire qui allait l'habiter, cette maison, la House am Horn de 1923, se veut un prototype tellement efficace qu'on doit pouvoir le reproduire. Et je reviens à cette cuisine qui est la première cuisine intégrée allemande avec ses meubles hauts, ces placards en bas. Dans la cuisine traditionnelle allemande, on faisait la cuisine au milieu de la pièce sur une grande table. Là, le plan de travail qui prend tout le mur est sous la fenêtre. Et un certain nombre de publications vont accompagner ce travail de rationalisation où l'on étudie les pas de la ménagère à travers la cuisine parce que tout dispositif superflu entraîne un surcroît de temps. Donc quelque chose d'assez pionnier. Par ailleurs, vous apercevez les pots qui sont fabriqués par l'atelier de poterie du Bauhaus et qui font déjà l'objet d'une fabrication industrielle. Dans cet nouvel esprit du Bauhaus, art et industrie, nouvelle unité, évidemment, tout ce qui était exercice de respiration, végétarisme, mystique disparaissent. Et même si la façon d'enseigner évolue un petit peu, on arrive à ce moment canonique avec, comme ce dessin que Gropius montre, un cours préliminaire de 6 mois où l'étudiant du Bauhaus se familiarise avec les couleurs, avec les formes, avec les matériaux, avant de choisir un atelier de son choix. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'ateliers dans lesquels, pendant 3 ans, il travaillera, mais toujours collectivement, toujours de façon coopérative. Donc, développer sa créativité, mais de façon croissante, intégrer les standards de la production industrielle, la standardisation, et puis, à un moment du Bauhaus, aussi intégrer l'idée d'une mission sociale de l'artiste. Alors, malgré le succès très grand de cette exposition à Weimar, le Bauhaus fait l'objet d'attaques répétées. D'une part, les nationalistes qui arrivent au pouvoir considèrent que c'est un foyer de bolchevisme. Les artisans locaux voient une concurrence déloyale et les électeurs sont très mécontents qu'on utilise leurs impôts pour financer une institution aussi à rebours de l'esthétique de Weimar, de l'esthétique classique qu'elle a abritée en son sein pendant des siècles. Le gouvernement local, c'est pas le gouvernement allemand, hein, c'est une puissance régionale, décide donc de couper les subventions, donne un préavis de licenciement et Gropius, avec les différents maîtres, préfère fermer le Bauhaus qui devient absolument impossible à gérer. Et à ce moment-là, l'exposition de 1923, ce qui se passe au Bauhaus est suivi d'assez près par des villes très intéressées. Un certain nombre d'offres de reprise se font jour et l'offre la plus intéressante émane d'une ville qui s'appelle Dessau, une ville industrielle de 70 000 habitants qui concentre un certain nombre d'industries, en particulier aviation et chimie. Et le maire social-démocrate de Dessau convainc les industriels de sa ville de mettre la main à la poche, non seulement pour accueillir le Bauhaus, mais aussi pour financer un bâtiment pour l'école, bâtiment qui abritera donc le Bauhaus, mais également l'école technique de la ville. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, c'est bien évidemment Gropius qui est chargé de la construction de cet édifice, qui est l'édifice manifeste de l'avant-garde plastique de la modernité architecturale. Le bâtiment est construit en 1925-1926. Il abrite différentes activités du Bauhaus, les ateliers, l'école technique, les activités administratives et puis toute cette convivialité qui est si importante dans le fonctionnement du Bauhaus. Ce bâtiment est considéré comme fonctionnaliste conformément au fait d'utiliser des espaces, des volumes différents pour chaque fonction. Un bâtiment comme le Reichstag, par exemple, est compact et on ne voit pas ce qui s'y passe. Gropius, au contraire, et cette génération d'avant-garde souhaitent qu'on distingue à l'œil nu le fait qu'il se passe des choses différentes dans les différents volumes. Et de ce point de vue-là, Gropius privilégie les vues aériennes du Bauhaus. Et vous avez là sur la diapositive la légende qui montre donc les locaux de l'école technique, le grand volume vitré qui reprend le mur rideau de l'usine Fagus pour les ateliers du Bauhaus, et entre les deux, cette passerelle où se trouvent les bureaux de l'administration, l'agence privée de Gropius, bon, et qui a vocation à abriter le futur département d'architecture, parce qu'à ce stade, il n'y a toujours pas d'atelier ou de département d'architecture au Bauhaus. Et puis un bâtiment bas qui abrite la cantine et le théâtre, et un foyer d'étudiants, 28 chambres avec salle de bain et des balcons qui ont donné lieu à des photos absolument iconiques, tout cela très, très visuel. Alors ce bâtiment qui est construit en béton, en remplissage brique, à l'époque on maîtrise pas tout à fait le béton armé, avec ce qu'on appelle les huisseries métalliques, donc les bois de fenêtres en acier profilé très, très mince, et des façades, un enduit revêtu de peinture blanche, fait absolument sensation. Le jour de l'inauguration, sont triés sur le volet 1 millier de vedettes de l'architecture et des arts plastiques européens, qui sont absolument, passez-moi l'expression, bluffé par cet univers de transparence et d'agrégation de la lumière. À l'époque, donc en 1926, le succès du Bauhaus fait qu'il est en mesure de recruter un certain nombre de vedettes dans tous les domaines des arts plastiques. Et vous voyez sur cette photo la liste de noms que je ne vais pas égrener, mais les deux plus célèbres, au-delà de Gropius, qui fait partie des noms de référence de l'architecture du XXe siècle, vous voyez, vous distinguez peut-être Paul Klee et Vassili Kandinsky, qui depuis le début sont au Bauhaus et vont y rester jusqu'à la fin. Donc une pépinière de talent absolument prodigieux, dans une situation où il faut, malgré évidemment la preuve qui est faite de la créativité de l'institution, est toujours dans une situation de combat, combat au sein de la scène architecturale, hein, et puis les académies des beaux-arts continuent à produire des choses beaucoup plus académique, mais aussi en but de façon croissante, à partir du moment où la social-démocratie perd le pouvoir et où le nazisme, d'abord les nationalistes et puis les nazis répandent leur pouvoir en Allemagne, en but donc à toutes sortes de difficultés, sans parler de la crise économique qui finit par rattraper l'Allemagne. Alors, dans les images que je vous montre, il y a donc... Tout est créé par le Bauhaus, les luminaires, les sièges, la décoration intérieure. Et alors, l'avantage de Dessau, c'est qu'en plus du bâtiment d'enseignement, la ville finance des maisons, une maison pour le directeur du Bauhaus et trois maisons doubles, donc pour 6 mètres. Et là, ce que vous voyez, c'est Paul Klee assis dans son atelier. C'est une photo assez émouvante. Et si vous allez à Dessau, bon, le lieu est vide, mais ça reste très incroyable de penser que c'est le lieu où Klee a créé son œuvre absolument majeure. À partir de 1926, le Bauhaus ajoute à son nom école de design et de façon plus nette, l'activité a deux faces, l'enseignement et la production. Dans cette phase d'adaptation au monde industriel plus volontariste, quelques ateliers sont supprimés parce qu'on les considère comme relativement inaptes à produire des brevets. C'est le cas en particulier de la sculpture sur pierre ou de la reliure qui faisait partie de la panoplie de départ. L'atelier d'imprimerie, et vous voyez l'image, qui est animée par Herbert Bayer, très typographe, très proche des milieux de la publicité, se concentre désormais sur typographie, affiches et publicité. Et ce que vous voyez, c'est un kiosque où il imagine un lieu avec des publicités lumineuses, ce qui est là aussi assez pionnier. Et comme le Bauhaus se définit aussi comme société de production, un organe est créé pour la commercialisation des brevets. En 1926, cette municipalité de Dessau, qui est quelque chose de prodigieux pour le Bauhaus, confie à Gropius la construction d'une cité ouvrière de 300 logements qui va permettre au Bauhaus de développer son activité architecturale qui pour le moment reste au stade d'aspiration et n'a pas encore trouvé, à part les maisons pour les deux expositions qu'il n'a pas encore trouvé à s'exprimer, le moment de la réflexion sur comment est-ce qu'on réduit comment est-ce qu'on fait une maison très habitable sur une petite surface qui ne coûte pas cher, avec des méthodes de production qui se rapprochent de celles de l'industrie. Et donc, on invente un standard, on réplique une petite maison cubique et on réfléchit à la façon dont on peut à la fois avoir une intimité familiale avec le jardin, mais aussi quelque chose qui donne corps à la communauté des habitants. Donc cette cité est très regardée dans une Allemagne où le logement social bat son plein et c'est le moment où le Bauhaus franchit le pas de créer son agence d'architecture. Donc les choses ont l'air de rouler, si je puis dire, et en 1928, patatras, coup de théâtre, alors que tout marche bien, Gropius démissionne. Gropius trouve que, en fait, justement, la situation va bien, le Bauhaus a des contrats, il a un personnel extrêmement solide, lui est épuisé par toutes les guérillas qu'il a dû mener contre les administrations successives, et puis inutile de dire qu'une palette pareille de génie ou de talent aussi hors du commun, ça ne se passe pas comme un long fleuve tranquille. Et donc, il trouve qu'il a assez donné. C'est un homme qui a été quand même blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il a envie de revenir à sa pratique architecturale. Et il confie les clés du Bauhaus au directeur du département d'architecture nouvellement créé, qui est un Suisse, un architecte suisse, un bon architecte, très marxiste et qui va orienter le Bauhaus vers quelque chose de plus scientifique en invitant toutes sortes de conférenciers, plutôt très à gauche, ce qui va nuire au Bauhaus à une période où la tolérance de la municipalité est battue un peu en brèche par la montée du nazisme. Ce marxisme affirmé de Hannes Meyer fait le jeu des adversaires de l'école qui montent une cabale en l'accusant d'avoir financé de la propagande communiste et Meyer est congédié alors même qu'il avait doublé les revenus du Bauhaus et que le nombre d'étudiants atteignait déjà désormais les 200 étudiants. Donc Hannes Meyer part très amer poursuivre sa carrière en Union soviétique. Celui qui succède à Hannes Meyer s'appelle Ludwig Mies van der Rohe, qu'on appelle en général Mies pour aller plus rapidement, qui est l'une des autres figures dominantes de l'architecture du XXe siècle. Mies van der Rohe, qui est également formé comme architecte, également établi à Berlin, qui a dessiné au tout début des années 20 des prototypes de gratte-ciel de verre dans la période expressionniste, spectaculaires et qui seront en fait construits, et pas du tout sous la même forme, beaucoup plus tard aux États-Unis. Ludwig Mies van der Rohe est donc un architecte d'un talent extraordinaire, mais qui essaye de sauver l'école avec la mission de la dépolitiser. Donc, il transforme le Bauhaus en école d'architecture à un moment où la commande se raréfie. Et donc, le Bauhaus en revient un peu à ce qui se passait au départ, à une architecture de papier, avec des exercices d'urbanisme théorique qui prennent de plus en plus de place. Et malgré cet assagissement, si on peut dire, de Mies, qui considère que le Bauhaus a pour vocation de former des futurs professionnels du bâtiment, et que donc, ce qu'ils doivent savoir, c'est ce qui leur servira comme bagage pour construire. Malgré cela, l'hostilité est telle que les nazis viennent perquisitionner le Bauhaus et le Bauhaus est fermé. Ludwig Mies van der Rohe, en 1932, essaye de sauver le Bauhaus, loue une usine désaffectée à Berlin, ouvre des salles de cours, mais l'arrivée de Hitler au pouvoir sonne le glas de cette aventure. Alors, je fais une parenthèse sur l'hostilité des nationaux socialistes au Bauhaus. L'idée que le Bauhaus soit partisan du toit plat. Et le toit plat, c'est une façon, entre autres, d'avoir quelque chose, ça a plusieurs vertus sur le plan architectural. Ça a la vertu de permettre une plus grande habitabilité de l'étage sous le toit. Ça permet d'avoir un toit-terrasse où on peut monter et prendre le soleil, ce qui, à une période où la tuberculose reste un problème, est sur le plan hygiénique quelque chose de bienvenu. Et sur le plan plastique, donc tout ce travail sur la volumétrie orthogonale a aussi donc des ressorts qui sont de l'ordre de l'esthétique. Pour le national-socialisme, en fait, le toit plat, ça ne peut pas avoir sa place dans une Allemagne où la pluie et la neige doivent ruisseler. Et donc, le toit plat est complètement orthogonal avec la nécessité d'avoir des toits en pente adaptés au climat et donc beaucoup plus traditionnels par rapport à la pratique allemande. Donc, le raisonnement est le suivant, ces toits en pente ne sont pas allemands, ils sont orientaux et donc ils sont juifs. D'où toute une rhétorique sur le judéo-bolchevisme du Bauhaus. Et je vous montre là une cité d'habitation expérimentale construite en 1927 sous la direction de Mies van der Rohe et qui est caricaturée. Là, je vous montre cette même cité qui a fait appel à 17 architectes d'avant-garde venant de toute l'Europe, caricaturée en village arabe, en Arberdorf. Cette rhétorique, donc, qui a à la fois l'hostilité et l'antisémitisme viscérale de ces nationalistes et de ces nazis. Il y a aussi le fait que ça ne peut être que pathologique, que cette peinture qui n'est pas figurative, ces maisons qui sont si différentes de la maison allemande traditionnelle avec des matériaux traditionnels, ça ne peut relever que d'une maladie. Et de ce point de vue-là, en 1937, les nazis organisent à Munich une exposition qui s'appelle L'art dégénéré, Entartete Kunst, et dont le musée Picasso vient de proposer une analyse cet hiver, revenant donc sur cette idée de la pathologie de la modernité. Au moment où le Troisième Reich ferme le Bauhaus définitivement à Berlin en 1933, sa doctrine architecturale n'est pas vraiment fixée. C'est-à-dire qu'il y a encore plusieurs sensibilités qui coexistent au sein du parti nazi. Et finalement, les petites maisons du type de la cité qui a été confiée au Bauhaus ne seront pas vraiment démolies. Au maximum, le Troisième Reich va mettre des toits en pente dessus. Pour ce qui est des bâtiments officiels, pour les bâtiments représentatifs, comme on dit en allemand, beaucoup sont en réalité inspirés des bâtiments publics de la République de Weimar, mais avec une échelle démultipliée. Et là où l'histoire est cynique, c'est que pour l'architecture industrielle, et le Troisième Reich prépare très vite son effort de guerre, sont recrutés d'anciens étudiants du Bauhaus. Pas les maîtres qui sont trop connotés, qui sont trop connus, mais des étudiants plus jeunes qui ont appris à travailler selon les standards industriels et donc à manipuler les matériaux pour fabriquer des usines modernes. Le Bauhaus est donc le fer de lance de cette nouvelle esthétique qui se développe en Europe, et dont l'une des figures les plus connues est Le Corbusier en France. On l'appelle le mouvement moderne en architecture, ou également le style international, terme qui a été forgé par le MoMA, le Museum of Modern Art de New York, en 1932. Et ces termes, mouvement moderne en architecture, style international, caractérisent ces rénovateurs de l'architecture dans les années 20 et 30, et puis dans les années 50, c'est une pratique architecturale qui se banalise et qui représente le canon de ce qui se construit après la Seconde Guerre mondiale. Ces modernes radicaux du mouvement moderne veulent la suppression de l'ornement, de la surcharge décorative, et ils sont très inspirés par l'ingénieur américain. Se développe toute une iconographie de l'industrie, le paquebot, l'avion, le silo, le tramway, l'automobile sont dans l'imaginaire des architectes qui pensent qu'il faut actualiser la culture de l'habitat, la culture bâtie, sont des modèles. D'où une référence au paquebot, une inspiration des motifs du paquebot. Vous voyez là deux villas construites par Le Corbusier à Boulogne et vous notez la blancheur comme les parois des paquebots, les rambardes, les balcons filants, on a beaucoup de hublots, le sun deck, donc ce toit terrasse qui permet de prendre le soleil. Cette rhétorique, en fait, elle est utilisée par l'architecte pour se rapprocher de l'efficacité de l'ingénieur et montrer la validité de l'architecture moderne. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous pourriez vous dire, bon, la prise de vue aurait pu éliminer le poteau électrique, mais non. L'idée dans cette diapositive, dans cette photo commanditée par Le Corbusier, c'est au contraire de montrer qu'on est là au sommet du confort moderne. Et vous voyez tout à droite, là, sur le côté de la diapo, la voiture de Le Corbusier lui-même, mais avec l'idée que la maison est conçue aussi efficacement que le serait une voiture. Il faut rappeler qu'on est dans une période de crise du logement après la Première Guerre mondiale, aussi bien en France qu'en Allemagne, où les architectes font de leur mieux pour essayer d'inventer des solutions efficaces, économiques, pour loger tout le monde et donner à tout le monde un minimum de confort. Donc si on veut faire un bilan, on voit que le Bauhaus n'est pas quelque chose de monobloc, a connu plusieurs phases évolutives, qu'il a donc exercé une influence absolument déterminante, qu'il occupe une place de premier rang dans l'histoire des arts plastiques. Je vous montre quelques exemples de production du Bauhaus, il y en a beaucoup. Vous voyez là une tapisserie d'une femme qui s'appelle Günta Stötzel, qui a été étudiante au Bauhaus et qui est la première et la seule femme à avoir été responsable, à avoir dirigé un atelier. Elle a été responsable de l'atelier de tissage. Et c'était quelqu'un qui alliait à un talent et une créativité, une maîtrise des matériaux et de la technique du tissage assez exceptionnelle. Sous sa direction, l'atelier de tissage va devenir l'un des plus productifs du Bauhaus en mêlant une créativité, l'utilisation de nouveaux motifs géométriques et une très grande maîtrise et innovation dans les techniques de tissage. Deuxième exemple, c'est la fameuse théière de Marianne Brandt qui a été la première femme élève au Bauhaus en 1924, qui avait choisi l'atelier du métal et qui a imaginé beaucoup d'objets pour la vie quotidienne. Le paradoxe, c'est que cette théière qui a un look très industriel, en fait, a été entièrement fabriquée à la main. Et vous notez toujours dans ce détail pratique le petit manche en bois d'ébène, pour éviter que la chaleur ne gagne, ne brûle la personne qui tient la théière. La lampe de Wilhelm Wagenfeld, donc avec le cercle, le cylindre, le tube et la sphère, qui au départ était un peu compliqué à fabriquer. Vous notez aussi la mise en scène du fil électrique qui dépasse. Et puis Wagenfeld a simplifié la méthode de fabrication. Et à partir de 1980, elle a été fabriquée en série. Et elle est devenue un peu l'emblème du Bauhaus. Autre exemple, le fauteuil de Marcel Breuer, qu'on appelle le fauteuil Kandinsky. En fait, ce n'était pas au départ pour Kandinsky, mais Kandinsky a été tellement frappé par ce fauteuil qu'il a voulu que Breuer lui en fasse un, et qui a été inspiré à Breuer par le guidon de son vélo. À un moment où l'entreprise industrielle Mannesmann avait réussi à courber les tubes sans soudure. Et donc un fauteuil très léger, cuir et structure tubulaire, qui là aussi a été fabriqué à partir des années 60 à de nombreux exemplaires et dont les droits sont toujours détenus par l'entreprise Knoll. Donc, on conserve l'image du Bauhaus comme école innovante. Alors, je signale quand même que dans ce mouvement de lutte contre la camelote allemande, en Allemagne, une réforme des écoles d'art était quand même... Le Bauhaus n'était pas absolument unique. Disons qu'il y avait ce mouvement en cours. Mais le Bauhaus est souvent assimilé à un style, ce qui contrariait beaucoup Gropius, pour qui ce qui était important, c'était la créativité et la pluridisciplinarité. Paradoxalement, c'est l'hostilité des nazis au Bauhaus qui a assuré sa notoriété mondiale, étant donné que les membres juifs et communistes étaient directement menacés, mais que même ceux qui n'étaient ni juifs ni communistes, finalement, voyaient leur marge de manœuvre totalement réduite, n'avaient plus aucun accès à la commande. L'émigration des Bauhäusler, des membres du Bauhaus, a été massif. Laszlo Moholy-Nagy a fondé le New Bauhaus à Chicago en 1937. En 1937, Gropius émigre à Harvard, où il dirigera la fameuse Graduate School of Design, l'école d'architecture de l'université de Harvard. Mies van der Rohe est invitée à l'Illinois Institute of Technology à Chicago, dont il fera le design du campus avant de construire les gratte-ciels qu'il avait imaginés dès le début des années 20, en particulier le Seagram Building qui a été pionnier dans la silhouette de New York. Et puis, juste un petit décalage entre l'architecture imaginée, donc ce gratte-ciel trilobé imaginé par Mies van der Rohe au début des années 20, et la transcription dans le bâti de son élève à Chicago, qui n'a pas tout à fait ni la même légèreté ni la même transparence. Autre élément de postérité, la ville de Tel Aviv, où ont émigré pour le coup un certain nombre de Bauhäusler, d'élèves du Bauhaus juifs et donc menacés, mais également des Européens, des architectes européens qui avaient fait un peu leur cette pratique du Bauhaus, et la ville blanche de Tel Aviv, comme on l'appelle, est aujourd'hui elle aussi patrimoine mondial de l'humanité. Donc, comme on l'a vu, même si la construction était le but ultime du Bauhaus, sa postérité va bien au-delà. Elle s'étend à une palette de domaines, dans les méthodes de l'enseignement artistique, dans les conceptions urbanistiques, dans la forme des objets de la vie quotidienne, dans la photographie, la mise en page, la typographie, la danse. Et c'est du reste à ce titre que plusieurs sites du Bauhaus ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 2017, et puis à nouveau d'autres sites en 2021. Et c'est cet héritage que veut remettre, auquel s'attaque l'AFD, ce mouvement d'extrême droite allemande, en réclamant un inventaire critique de ce qu'il considère comme une vision d'horreur de la vie dans un espace réduit. Pour l'AFD, le Bauhaus ne peut pas servir de modèle, au contraire, c'est une vision d'horreur. Bon, cela dit, malgré ses ambitions égalitaires, le Bauhaus est quand même largement adressé à une élite, au moins à l'époque. Je vous ai cité quelques exemples d'objets qui sont maintenant fabriqués plus largement, mais qui restent fabriqués dans le titre d'un design relativement de luxe. On peut dire toutefois qu'une entreprise comme IKEA, qui a été fondée en 1943, a repris cette idée d'un design pour tous, et cette fois vraiment pour tous. Et par exemple, la chaise cadette, là, qui date de 1970, est probablement une déclinaison moderne et pour le coup accessible au public des idéaux esthétiques du Bauhaus. En conclusion, on peut dire que le Bauhaus a fondamentalement à voir à notre rapport à la modernité et à l'idée que le progrès peut améliorer la vie. Je reprends la conclusion du catalogue de l'exposition des arts décoratifs à Paris. Presque tous les créateurs contemporains pourraient se revendiquer de l'héritage du Bauhaus sur des questions diverses liées aux textures, au rapport à l'espace, à la création d'environnement, au jeu entre forme et fonction, au désir d'art total ou à la volonté de démocratisation. Le Bauhaus est à ce point synonyme de créativité que lorsque la Commission européenne, en 1920, a voulu créer un label pour un cadre de vie durable, elle est allée chercher le nom de Bauhaus avec un concours qui s'appelle le New European Bauhaus. Il est clair que l'hostilité qui s'est manifestée récemment, au moment de la célébration, non pas du centenaire en 2019, mais de la création, de l'édification du bâtiment phare du Bauhaus en 2025, pour célébrer ce centenaire de la construction, ça va bien au-delà du Bauhaus. Ça concerne le système de valeurs qui est incarné par le Bauhaus. Et ce système de valeurs, c'est l'ouverture, c'est la modernité, c'est l'internationalisme dans l'art, l'architecture et le design. Et ces valeurs sont perçues par l'AFD comme contraires aux vertus allemandes. L'AFD reproche au Bauhaus d'effacer les différences régionales, nationales, au profit d'une esthétique globalisée, internationalisée. Finalement, l'hostilité de l'AFD au Bauhaus relève autant de considérations politiques que de considérations esthétiques. Elle prolonge une tradition d'extrême droite qui voit dans le Bauhaus une menace pour l'identité nationale, une menace pour les valeurs conservatrices. Il s'agit donc d'une offensive qui porte sur l'offensive même de la modernité et que nous avons probablement à méditer. Alors, si vous voulez approfondir, je vous conseille le grand classique sur le Bauhaus de Magdalena Droste, qui a longtemps dirigé le Bauhaus Archive de Berlin. Pour 20 euros, vous avez un très joli livre de 500 pages avec 500 illustrations pour beaucoup en couleur. Et puis, une très charmante, très aimable bande dessinée, Bauhaus, l'idée qui a changé le monde, aux éditions du Seuil en 2021.